Green, green, green.
Je suis Jackie Ratzenberger, nous voici dans un hors-série, encore un. Vous allez croire que nous n'enregistrons plus que des hors-séries. Mais cette fois, je vais vous raconter comment je n'ai pas pu suivre les 24 heures du Mans du Centenaire comme je l'avais prévu. Et oui, car une semaine avant, l'événement commençait à remonter en visibilité gentiment. Je n'avais volontairement rien prévu ce week-end-là, même si, comme d'habitude, je me préparais à en regarder 18 heures sur les 24. Sur le papier, la course du centenaire promettait déjà d'être plus concurrentielle que les années précédentes. Et heureusement, le retour important des constructeurs en LMP1, lapsus, je veux dire les hypercars, enfin, les deux types d'hypercars. Oui, parce qu'il y a deux types d'hypercars. Si, c'est simple. Vous avez les LMH, qui sont des voitures où les constructeurs définissent leur châssis, moteur et système d'hybridation. Dans cette catégorie, nous avons Toyota, Ferrari, Peugeot et Glyconos. Une hypercar peut être aussi une LMDH, avec une hybridation et un châssis standardisé. Ce sont des voitures issues de l'IMSA, la catégorie endurance aux États-Unis. On y retrouve Cadillac, Porsche et Von Wall. Évidemment, pour éviter une domination des uns et des autres, un équilibre de performance est défini. C'est la fameuse BOP. Et après les quelques courses du début d'année, Toyota semblait loin devant les autres, en performance comme en exploitation. Bien qu'ils aient dit qu'ils n'y toucheraient pas avant Le Mans, quelques jours avant la journée de test, ACO décide de changer la BOP. Et pas qu'un peu. Ils alourdissent Toyota de 37 kg et Ferrari de 24. Peugeot et les autres étaient épargnés. Et pour cause, ils étaient tellement loin. La polémique fait toujours parler, mais avec le recul de la course, il fallait le faire. Le but de la BOP n'est-il pas d'équilibrer les performances? Ils sont peut-être allés un peu trop loin. Pour cette course du centenaire, je n'avais pas cherché à avoir de place, car les 24 heures tout seul, c'est un peu triste. Il faut y aller en groupe. Sauf qu'évidemment, cela ne s'est pas du tout passé ainsi. Le lundi, un ancien collègue poste sur LinkedIn qu'il ne sera plus en Bluetooth, connecté à son PC, mais relié par radio à la direction de course des 24 heures, en tant que commissaire au poste 26B et 27B. La photo illustrant était très rigolote, donc je le félicite, sachant combien devenir commissaire est important pour toute course automobile, et je lui demande où il sera affecté précisément, car évidemment, les postes 26B et 27B, je ne savais pas où c'était. Il me répond que c'est Arnage, et je reçois quelques minutes plus tard un SMS. Je cite... Une place gratuite pour les 24 heures, ça t'intéresserait ? Il m'explique qu'il avait une place pour son cousin, qui finalement n'a pas pu venir. Sacrée nouvelle, je réfléchis. J'interroge quand même madame, et elle est ravie pour moi. Je rappelle donc le Père Noël pour lui confirmer la place. Je mesure clairement ma chance, car la course est sold out depuis des mois. Je l'ai déjà dit ici, j'adore cette course, mais cela reste une course très fatigante pour les spectateurs. Autour de moi, au travail, j'ai un autre collègue, décidément plein de collègues, avec lequel je parle beaucoup de sport automobile. Bref, je lui chatte que je vais au Mans, que je suis content, tout ça. Et il me dit qu'il y va aussi avec son fils, sa fille et son copain. Ni une ni deux, on s'organise pour le faire ensemble, il reste 6 jours pour finaliser les détails, et parmi les questions que je me pose, comment j'y vais, où je me gare, parce qu'évidemment, le parking à 6 jours de l'arrivée, il en reste plus, quand est-ce que je pars, qui je vois sur place, des questions qui sont restées en suspens pendant plusieurs jours, notamment à cause de l'incertitude météo, car la pluie était annoncée et ça aurait été une première pour moi. En attendant pour patienter, je m'occupe de contacter tous ceux que je connais dont je pense qu'ils peuvent venir. Je réfléchis aussi à ceux qui pourraient y aller et que je ne connais pas, mais que j'aurais envie d'interviewer au sujet du Mans et du sim racing. Mon idée était de faire plusieurs petites interviews pour raconter les liens qu'entretiennent le Mans et le sim racing. En si peu de temps, j'ai eu pas mal de réponses, positives ou négatives, ce qui est une bonne surprise parce que je pensais qu'on avait peut-être oublier LiveSim, ça fait quand même plaisir. Une dizaine de personnes m'ont dit oui. Et ça, c'est génial. Le vendredi avant le départ, mon collègue, celui avec lequel je vais au Mans, pas le commissaire, c'est bon, vous suivez ? Alors, mon collègue me rappelle pour me demander quand j'arrive au Mans, car il m'explique qu'il y a un petit changement. Alors, en général, c'est jamais bon. Il m'explique qu'il va arriver beaucoup plus tôt car son fils doit accueillir la ministre des Sports à la FFSA Academy pour lui faire essayer les simulateurs. Oui, vous avez bien entendu, la FFSA Academy. Le monde est petit. Son fils est simracer, ingénieur de course et responsable du simulateur de la FFSA Academy. Le job de rêve. Et il me dit la phrase qu'il ne fallait pas dire. Si tu es là, tu pourras visiter la FFSA Academy et les simulateurs. Comme dirait l'hôte, la question elle est vite répondue. Du coup, cela résolvait aussi mon interrogation sur le comment j'allais au Mans. Je prends la moto, malgré la pluie. Oui, parce que j'y vais en moto. Car si je dois y être à l'heure, impossible d'y être en voiture. Sans entrer dans les détails parce que c'était pas prévu, j'ai bien essayé les simulateurs, c'était cool. Pas assez long, j'espère pouvoir vous en reparler dans un autre reportage, podcast ou article, je ne sais pas encore sous quelle forme ce sera. En attendant, j'avais 24 heures pour réaliser mes petites pastilles, et je sais que j'ai eu deux difficultés. C'était trouver un lieu où le micro enregistre les voix sans trop être saturé par le son des voitures, qui tournent autour du circuit, et l'autre vrai sujet est de se retrouver aussi à une heure précise avec mes invités. On va commencer avec le premier d'entre eux. Vous le connaissez si vous êtes auditeur ou lecteur de LiveSim, il s'agit de Richard Arnaud, fondateur de la Race Clutch, l'équipe e-sport en charge notamment des F1 e-sport pour Alpine. Je me doutais qu'il serait au Mans. Nous étions au calme dans l'hospitalité Alpine avant le départ de la course.
Richard Arnaud, bientôt 30 ans, président et fondateur de Race Clutch et avec une autre casquette, celle de team principal pour Alpine e-sport.
Ouais.
Qui est partenaire de la structure depuis 4 ans maintenant.
Ouais, on se connaît depuis...
Longtemps.
Longtemps, hein, parce qu'on s'est revu à la... À Limoges, je crois
Oui,
ou à Poitiers.
Non, à Poitiers. C'était à Poitiers, donc ça date de 2015, ça.
Ouais, ça date de 2015. Et t'étais au tout début, donc t'as quand même bien bourlingué, finalement, pour...
Depuis 2015, l'associatif a évolué, est devenu de plus en plus gros. Puis il y a eu les championnats du monde F1 e-sport en 2017, qui ont été un peu le début de l'aventure avant de lancer l'entrepreneuriat, qui s'est lancé, lui, en 2020. Et puis, nous voilà en 2023... Nous partenaires depuis un peu plus de 3 ans avec Alpine. Alors moi, c'est même ma 4e année parce que j'étais sous le giron Renault Sport juste avant. Et puis aujourd'hui, une petite boîte un peu développée et l'occasion d'avoir fait de la passion un métier.
Bah oui, comme ça, tu as l'impression de ne pas travailler toute ta vie.
Ouais, voilà, c'est un peu ça. Alors c'est quand même du travail, il faut pas se mentir. Mais bon, c'est du travail agréable, fait, dans un environnement qui est passion. Donc on se sent aussi un peu privilégié, quoi.
Ouais. Le confinement a dû changer des choses aussi par rapport à ça. Parce qu'en fait, c'est ce que j'ai noté, en suivant la simulation de course, il y a eu comme un essor de la simulation et de l'intérêt, de la visibilité, je dirais plutôt, la visibilité de la simulation au moment du confinement, comme tout le monde a voulu faire du contenu. Ouais. Même les grands médias, ils n'avaient plus rien à montrer, donc il fallait montrer quelque chose.
Ouais, ça a été un accélérateur. Moi, j'avais pas mal de discussions avec beaucoup d'acteurs avant Covid, mais le sujet n'était pas forcément prioritaire parce qu'il y avait plein de choses qui se mettaient en place dans le milieu du réel qui ont des enjeux qui sont encore un cran au-dessus.
Ouais.
Et en fait, du coup, le Covid a fait que tous ces sujets-là sont passés prioritaires et toutes ces personnes-là que j'avais rencontrées un ou deux ans auparavant en allant sur les circuits, sur les paddocks, en montrant ce qu'on faisait, ce qu'était l'e-sport, où ça pourrait aller, ce qu'était le simracing de manière générale. C'est comme ça, en fait, que tout s'est accéléré. Pour nous, c'est comme ça qu'après, derrière, le partenariat avec Alpine aussi s'est mis en place. Donc ça a été un vrai boost, et c'est un boost qui a réussi à perdurer aussi dans la durée. Derrière, avec de plus en plus d'acteurs, voilà, je pense au SRO qui a sa série et virtuelle et réelle dans le même temps, la continuité des F1 Sport Series, le Mans virtuel, tout ce genre de choses qui ont fait que le milieu n'a fait que grossir, quoi, depuis ce temps-là.
Ouais, et c'est plutôt bien que des structures françaises comme j'en connais toi, principalement la tienne, qui fonctionne quand même bien sur la durée. Donc moi, je trouve ça agréable de pouvoir discuter, de pouvoir te solliciter, que tu répondes, et que voilà, c'est plus facile en français.
Ouais, moi, je trouve que c'est la France, en fait, on est un cas un peu particulier, c'est-à-dire que depuis des années, on a des simracers au plus haut niveau des championnats internationaux. Je parle là même des iRacing World Championship il y a plus de 10 ans. Je pense à des gars comme Jérémy Bouteloup ou ce genre de choses. mais il n'y avait pas encore de structure ou de structuration en France qui était aussi digne de ce niveau-là. Ça commence à arriver, donc c'est une bonne chose. J'essaye de m'y atteler sur un peu tous ces sujets-là, parce que je pense que voilà, aujourd'hui, on est une des plus grosses places en Europe du côté virtuel, aux côtés de pays comme la Finlande, l'Espagne, etc., qui sont eux déjà beaucoup plus avancés.
L'Allemagne aussi, je pense.
L'Allemagne aussi, tout à fait, avec des structures comme Coanda, ouais. Porsche maintenant, qui est arrivé aussi dans la danse depuis quelques années. Donc ça permet un peu de continuer en fait de professionnaliser tout ça.
Ouais. Et tu vois, alors moi je vois aussi, on discute avec Gwenegan qui lui fait des coachings sur des youtubeurs, des créateurs de contenu qui sont pas forcément tous des pilotes professionnels, mais il y a parmi eux il y a des pilotes qui, enfin des sim racers qui sont présents. Donc je pense à Pierre Olivier, des Pielos, Anna qui roule aussi régulièrement. Est-ce que tu penses que cette proximité avec le sim racing et le sport réel est un chemin qui est possible?
Ouais, je pense que c'est définitivement un chemin qui est possible. Nous, on l'a déjà fait. Je pense à Fabrizio qui a fait des tests en F4. On avait Hugo qui a fait Winfield et Feed Racing, ouais, l'école de Jacques Villeneuve, où on avait fait des tests justement sur comment est-ce que ça se mettait en place et quels étaient les parallèles entre réel et virtuel. Et ils sont évidents. Alors après, si tu veux, tu as toujours la part du risque qui sera différente dans le milieu du réel et du virtuel. Mais par contre, l'aspect technique pur de pilotage, t'apprends tout en sim. Honnêtement. Et aujourd'hui, le fait que les deux mondes soient de plus en plus proches, et surtout que ça va pouvoir créer davantage d'opportunités pour rapprocher ça et peut-être arriver à un vrai step, un vrai après GT Academy. Parce que la GT Academy date, mine de rien, et était un exemple très concret de l'appétence du virtuel vers le réel. Alors ça n'a pas réglé, et ça a bien montré le petit souci Sport Auto là-dessus, la question du budget.
Oui.
Puisqu'en fait, à la fin de la journée, l'initiative fonctionne tant que les financements fonctionnent, mais une fois que les financements s'arrêtent, on ne règle pas cette problématique-là. Donc le talent, pour moi, il est évident, il est là. Maintenant, c'est plutôt cette problématique de financement, et je pense qu'elle va se régler de plus en plus. Tu vois, Fanatec, qui est aujourd'hui sponsor titre du SRO Championship, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans le monde du virtuel qui cherche à se financer ou à se faire légitimer par le monde du réel, mais le virtuel qui finance le monde du réel. L'équation, elle est en train de...
McLaren aussi, Logitech.
Oui, avec Logitech, voilà, c'est ça. Il y a de plus en plus de partenaires qui sont dans ce parallèle-là et beaucoup d'écosystèmes du virtuel aussi qui se renforcent financièrement, politiquement. Et je pense que ça finit de construire cette légitimité-là, auprès des acteurs dans le réel.
Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Le Mans Ultimate, par exemple. Qu'est-ce que t'en penses? On en parlait tout à l'heure off, donc on va l'enregistrer.
J'ai eu l'occasion de le tester, je le trouve pas mal. La base est Air Factor 2 de toute façon,
c'est quelque chose de connu. Hein.
Donc c'est une bonne base en termes de physique. Maintenant, ce que j'espère, et j'ai discuté un petit peu avec les studios sur ce sujet-là, c'est que ça sera un jeu qui prendra tous les atouts d'Air Factor 2 et qui n'en prendra pas les plus gros défauts. Donc il y a des ambitions de mode solo, donc là-dessus je suis pas trop inquiet s'il faut en mode solo, avec quand même toute l'ergonomie en fait de Air Factor 2, ils vont faire un carton, je pense. Maintenant on espère aussi sur le mode multijoueur, mais bon, avec les Le Mans Virtual Series, de toute façon ils savent où est le problème avec ce qu'a lâché Max Verstappen l'année dernière. Forcément c'est visible, donc il y a des oreilles qui sont tirées, donc on est... En fait, c'est un mal pour un bien, dans le sens où on est obligé de progresser.
E-Racing a eu le même problème.
En 2016. C'était 2017. Pour Le Mans.
Qui venait juste d'avoir la licence. Et
qui s'était arrêté sur la ligne de départ arrivée. C'est ça. Beaucoup de gens l'ont oublié, mais depuis, E-Racing n'a plus jamais eu de problème là-dessus. Et je pense que pour Air Factor, ça sera...
Ça sera
pareil. Il y a eu beaucoup de changements aussi chez Motorsport Games. Pas mal de gens de chez EA et Codemasters au début du lancement de la licence F1 qui sont arrivés. Donc il y a une structuration aussi humaine qui me paraît beaucoup plus solide que ce qu'elle était au départ. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de raison, quoi. Mais sinon, sur le jeu, les fondamentaux, eux, sont bons. Moi, j'ai testé du coup la 963, j'ai trouvé ça très bien, j'étais pas perdu, loin de là. Ouais. Donc j'attends de voir ce que ça donne après dans des conditions un petit peu plus poussées sur le jeu, quoi. Multigaming... Putain, forcément, comme on le fait tous sur les stands, etc., t'as même besoin d'accessibilité, donc t'as quelques aides et tout, des finesses de pilotage que tu retrouves pas tout de suite, mais qu'on sent quand même un petit peu. Donc je suis assez optimiste maintenant que ménage a été un peu fait chez Motorsport Games, à ce qu'ils nous sortent quelque chose qui soit bien et qui soit un beau succès, je pense.
Ok. Dernière question, qui tu vois gagner? Non, je vais même poser la question différemment. Donne-moi ton podium.
prends mon podium. J'aimerais bien voir une Cadillac dessus et je suis un grand fan de Seb Bourdais depuis le Champ Car, donc donc j'aimerais bien, en plus il est local, donc j'aimerais bien voir Sébastien sur le podium. Je pense que les Cadillacs sont peut-être un tout petit peu en dessous, donc je vais le mettre troisième. Après je pense que le match il sera entre Ferrari et Toyota. Et après, peut-être Porsche. J'ai pas vu les BOP de ce samedi matin s'il y avait eu des changements.
Oh, j'espère pas quand même.
Bah, vu le temps qu'a claqué la Ferrari en calibre, je pense que nos petits filous d'Italiens ont caché un petit peu leur jeu durant tout le week-end. Mais après, ouais, après ça va jouer entre Toyota et Ferrari. Et après, peut-être que Porsche peuvent. Je les vois comme outsiders tirer un peu les marrons du feu s'il y a des problèmes de fiabilité chez les autres.
Ouais. Moi, je donne mon avis aussi. Ouais. Et moi, je pense que ça va être, les deux Ferrari vont être out par le trafic. Parce que ce sont des jeunes pilotes.
C'est vrai.
Et voilà. Et je pense que c'est la Toyota, une des Toyota qui va gagner.
Je pense que Toyota sera un ou deux.
Je vois bien Bourdais avec la malchance qu'il a eu en hyperpole. Je vois bien faire deux ou trois.
C'est tout ce que je lui souhaite.
Ouais. Bon, bah, merci Richard.
Et bah, merci à toi, Jackie.
Ouais. Et puis bonne 24 heures du Mans.
Merci toi aussi. À bientôt.
Ça y est, la première interview est faite. Je suis rassuré. Le format de 10 minutes est adapté. On verra après le départ si je galère à enregistrer. Justement, la question de l'emplacement du départ, je me la suis posée assez longtemps. J'avais déjà fait Arnage, les S de la Forêt, le Tertre Rouge, et j'aurais aimé aller à Mulsanne, mais je n'avais pas le temps, car c'est trop loin du village finalement. Les stands sont probablement le plus mauvais endroit pour le départ. Donc je choisis donc d'emmener mon petit groupe au bout du Tertre Rouge. Habituellement, il y a peu de monde, et c'est jamais la foule. Enfin, c'est ce que je croyais, car pour la course du centenaire, c'était la Côte d'Azur, et sans pouvoir mettre une serviette. C'est le départ que vous avez entendu au générique, mais il n'a pas duré, car la course a pris son premier safety car au bout de 3 km. Nous l'ignorions, mais la pluie avait arrosé cette zone et jusqu'à la première chicane. Oui, le circuit est grand, et pour ceux qui ont vu la course, elle a été bien arrosée, ce qui n'a pas du tout été notre cas de toutes les 24 heures pour dire qu'on a eu de la chance. Autre personne incontournable du Mans, Michael Duforest. Il vit au Mans et il semblait naturel qu'il soit là. Mais ce n'est pas si évident car il a bien galéré à avoir une place. Michael est l'animateur du podcast Grand Prix et du Racing Café. Il est simrasseur également et on peut le voir sur sa chaîne Twitch quand il ne stream pas autour de l'Eurovision. Un profil éclectique donc, c'est ce qu'il va nous dire.
Salut, bah moi c'est Michael Duforest. Du coup j'ai bientôt 31 ans. Et ça fait une bonne quinzaine d'années maintenant que je baigne dans le monde du sport automobile, du simracing, un peu partout. Je suis principalement commentateur, écrivain, réalisateur de podcasts. On peut avoir plein de petites choses dans le milieu à chaque fois du sport auto. J'ai travaillé avec des équipes, notamment en WEC, avec pas mal de circuits, le circuit de Spa-Francorchamps en tant que speaker et pas mal de médias aussi.
Au Mans, on s'aperçoit aussi beaucoup qu'il y a beaucoup de joueurs de simracing qui sont présents. Et cette impression, je ne l'ai pas quand je vais sur un Grand Prix de F1. Donc j'ai fait qu'un seul Grand Prix de F1, mais je n'avais pas l'impression qu'il y avait beaucoup de joueurs. Alors qu'ici, dans les casquettes, dans les tenues, tu vas forcément voir des joueurs e-sport ou des marques d'attachement à l'e-sport. Y a beaucoup de simulateurs qui sont ici aussi, même s'il n'y en a pas beaucoup qui sont à Max et Libre, cette année en tout cas. Voilà, qu'est-ce que tu en penses de ce lien ?
Bah, je pense effectivement, oui, Le Mans, c'est l'un des pionniers un peu dans le simracing quasiment, en tout cas dans la période post-Covid, parce qu'il y a d'autres championnats qui, bien avant, faisaient aussi ce genre de choses. Mais ici, je pense que ça vient principalement du fait que tu as beaucoup de monde aussi. Enfin, on a une fréquentation qui est quand même bien plus élevée qu'un Grand Prix de Formule 1 sur la journée même ici. On fait globalement la fréquentation d'un week-end de F1 samedi-dimanche, voilà, sur le jour de la course. Là, on était autant pour le départ. Donc forcément, je pense que ça joue un rôle. Mais pour moi, c'est pas étonnant, sachant que l'e-sport sim racing, c'est quand même quelque chose qui... Enfin, je pense que c'est très compliqué de venir faire de l'e-sport en sim racing si tu connais pas le sport auto, si t'as pas une appétence particulière. Ouais. Je pense que 95% des gens qui sont là-dedans, c'est parce qu'ils regardaient d'abord les Grands Prix devant leur télévision. Donc forcément, je pense qu'il y a ce lien qui est très important, qui est qu'avant d'être, je pense que principalement dans ce domaine-là, et c'est pareil dans l'e-sport sur FIFA par exemple, avant d'être des fans d'e-sport sim racing, on est des fans de sport auto. Oui. Et donc forcément, on profite de ces grands événements pour se retrouver.
Exactement. Toi, tu es un fan de Simon Pagenaud ?
Oui.
Il roule aujourd'hui ?
Tout à fait.
Et c'est lui qui a pris le départ ou pas ?
Non, je pense pas. Je pense pas parce que Simon m'avait parlé justement l'autre jour. Il vient d'arriver, lui, il est arrivé lundi de Détroit. Il découvre la voiture. C'est sa première dans l'Oreca ici à l'MP2. Donc, il était encore un peu, voilà, un peu à la limite. Donc, je pense que pour le départ, ça n'était pas lui.
D'accord. Mais tu le vois comment dans sa voiture enfin son équipage, là où il est, c'est, il est chez,
chez Cool.
Chez Cool Racing, d'accord. C'est une équipe qui peut jouer la gagne. Hein.
Ah oui, non, clairement, de toute façon, le LMP2, c'est très serré. Hein. Ils ont tous la même voiture. Et donc, après, tout va dépendre un peu de la manière de gérer tout ça. Cool Racing, c'est une très bonne structure, notamment créée par Nicolas Lapierre. Donc, il y a l'expérience dans la structure en elle-même, même s'ils n'ont pas forcément autant d'années que des United Autosports. Mais Simon, je pense que c'est un bon rajout parce qu'il est avec des pilotes assez jeunes. Et lui, bon, bah, ce qui va pas forcément apporter en rythme pur parce qu'il ne connaît pas la voiture à fond, il va l'apporter en sérénité, en calme sur la piste. Faut savoir que Simon Pagenaud, c'est un pilote qui en IndyCar ne se crache quasiment jamais, ce qui est très rare. Pour un exemple tout bête, à Indianapolis, quand il a été victime d'un accident là sous drapeau jaune, c'est la première fois de sa carrière qu'il tapait le mur.
Alors que ça fait longtemps qu'il est...
Et c'était sa 12e participation. Ouais. Donc ça, c'est très rare, ce genre de choses. Et Simon, en général, n'abandonne jamais. Donc ici, ça va justement, peut-être aussi sur les relais de nuit, voilà, ou dans des conditions un peu piégeuses, comme on a eu au départ et comme on risque d'avoir plus tard, il peut apporter ce calme et ce côté, ok, on donne la voiture à quelqu'un qui va l'amener à bon port en principe.
Et il y a un autre régional, même si Simon n'est pas tout à fait de la région, mais il n'est pas si loin.
Il
y a Sébastien Bourdais aussi qui roule. Qu'est-ce que tu en penses? Ce serait bien et ce serait une belle histoire avec Cadillac aussi.
Ah bah, je pense que Sébastien, de toute façon, lui, il court après. Il était très ému quand il avait gagné en 2016, si je ne dis pas de bêtises, avec la Ford GT, en GTE. Mais ici, bon, évidemment, une victoire en général, ce n'est pas du tout la même chose. Ça a bien et mal commencé parce qu'il fait un super run de qualif, mais la voiture prend feu, donc... Tout de suite, forcément, c'est moins,
ouais,
c'est moins
on
bien.
On a su pour, je sais pas, pour les auditeurs, si c'est la voiture, elle a pris feu parce que justement, il y avait une conduite d'essence à haute pression qui a explosé. C'est pour c'est ça que ça a pris feu tout de suite. Mais la conséquence, c'était que le drapeau rouge, c'est lui qui en était la cause. Et donc, il perdait sa bonne place de qualif.
Ouais, il perdait son meilleur tour. Et donc, comme son deuxième meilleur tour était loin et qu'il ne pouvait pas améliorer derrière, il s'est forcément retrouvé un peu plus loin. Mais je pense que cette Cadillac a un très bon équipage aussi. Donc... Après, ça va être dur de battre l'ogre au Toyota, bien sûr, mais s'il y a encore une fois Sébastien, c'est un de ses pilotes, s'il y a des conditions un peu difficiles, s'il y a quelque chose, il peut lui tirer son épingle du jeu et il n'est pas avec des mauvais pilotes à côté. Donc voilà, si c'est une course compliquée, on peut compter sur eux pour peut-être aller chercher au moins un podium. Hein.
Ouais, en IndyCar, on le voyait, il était chez Sam Peter Schmidt, je crois, c'est ça.
Hein. Ah non, ça c'était Pagenaud qui était chez Schmidt. Lui, il a roulé chez Foyt, il a roulé chez Delcoin.
C'était chez Delcoin, c'était pas des grosses équipes.
Non.
Et pourtant, des fois, il jouait la gagne, quoi.
Bien sûr, parce qu'il y a le talent, il y a la relation avec l'ingénieur, il y a tout ce genre de choses qui rentrent en compte. Et voilà, Sébastien Bourdais, c'est quelqu'un qui a un retour quand même très pointu, qui forcément fait beaucoup de bien aussi aux équipes avec lesquelles il collabore.
Ah oui.
C'est de toute façon, ces pilotes-là, je voyais certains qui disaient, par exemple, Richard Westbrook n'est plus forcément dans le rythme, et on s'étonne de pourquoi Cadillac lui donne un volant. Mais si on lui donne un volant, c'est parce que lui peut apporter quelque chose derrière le muret des stands, derrière le garage, dans la zone avec les ingénieurs, et il va donner des informations qui vont permettre à toute l'équipe de progresser. Et ça, c'est quand même le genre de choses, quand tu fais une carrière qui fait 20-25 ans comme Bourdais, c'est que ça marche, hein, faut pas se mentir.
Alors il y a aussi dans l'actualité récente, il y a Le Mans Ultimate, est-ce qu'on peut en parler? Qu'est-ce que tu l'as essayé toi?
Ouais, j'ai fait 2-3 tours là sur les simulateurs qu'ils ont mis dans la zone fan. Bon, bah, de toute façon, hein, pour ceux qui nous écoutent, ils vont pas être très surpris d'apprendre qu'on est très proche d'un facteur 2, hein, voire pour l'instant à copier-coller. C'est de la bouche même des gens qui opéraient les simus. Hein. Il y avait des gens justement de Motorsport Games et de Studio 397 qui étaient là et qui m'ont dit globalement, voilà, c'est pour l'instant on est pareil, ça va évoluer évidemment. C'est la meilleure chose qu'ils puissent faire de toute façon, parce que faire un jeu de zéro aujourd'hui, c'est bête quand t'as une telle plateforme. Maintenant, quid du portage console un jour, parce que c'est très bien d'avoir fait, là c'est mon avis, c'est très bien d'avoir fait un produit qui là sera Sim Racing vraiment, mais qui va sortir que sur PC.
Ouais, c'est R-Factor 2. Hein.
Voilà, mais du coup, un jour il faudra le sortir sur PS5, sur Xbox et sur Xbox aussi, donc comment ils vont pouvoir adopter ça, et c'est là où ça peut personnellement un petit peu plus m'inquiéter. On a vu qu'Assetto Corsa sur console, ça s'était plutôt pas mal débrouillé, mais je sens quand même que la principale façon de vivre du jeu maintenant c'est sur PC, donc à voir, mais pour l'instant, bah voilà, c'est tout à fait conforme à ce qu'on a sur R-Factor 2, on sent bien toutes les choses, on sent bien les pneus, donc il n'y a pas trop de soucis, il manque un petit peu de finesse sur les sons pour l'instant, mais sinon c'est pas mal.
Tu l'as déjà dit au Racing Café, je l'ai écouté ce matin pendant que j'étais sur la route, mais pour nos auditeurs, qui tu vois gagner pour cette édition?
Toyota, car je sais très bien que ça va certainement se finir comme ça.
La 8 ou la 7?
J'ai mis la 8 devant la 7. J'ai mis un doublé Toyota avec la 8 devant parce que C'est quand même l'équipage le plus homogène. À un moment donné, ils ont gagné tous les titres et quasiment tous les titres et quasiment toutes les éditions des 24 heures, même si dans la 7, ils ont eu beaucoup de malchance. Mais voilà, bon, c'est quand même que ça marche très très bien dans la 8. Hirakawa, le nouveau pilote japonais, l'an dernier, il gagne sa première participation. Donc le mec n'est pas mauvais, loin de là. Donc oui, pour moi, ça va être la 8. Après, ça reste Le Mans. Au moment où on enregistre, il fait beau. D'ici une heure ou deux, ça peut changer. Donc, voir un peu ce que la Sarthe va nous donner, parce que c'est toujours assez sympa.
Oui, et puis Michael me disait tout à l'heure que lui, il était au Tertre Rouge. Il a eu de la pluie pendant une heure.
Ouais, il a eu quelques averses.
Ouais, et nous, on était dans le village et il y avait zéro pluie. Voilà. Il y a des gouttes, mais c'est tout.
Et la première chicane du Lyonnais était trempée. Loin de nous, c'est ouais. Le seul endroit où c'était vraiment très mouillé. Donc voilà, c'est particulier. Le circuit fait 14 km, forcément. Ouais.
Forcément.
C'est compliqué.
Et Ferrari, tu les vois aller
jouer le podium comme d'habitude, ouais, oui, franchement. Ils sont quand même un cran au-dessus de Porsche, de Cadillac et tous les autres, surtout en termes de vitesse pure. Hein,
en termes de vitesse pure, mais en termes d'exploitation, je ne suis pas sûr.
C'est plus compliqué, mais disons que là, Le Mans, c'est quand même une course où tu as suffisamment de relais pour gagner en vitesse pure, justement, et créer l'écart à ce moment-là. Alors certes, il y a les nouvelles règles de safety car qui regroupent tout le monde, mais tu peux toujours, voilà, même si tu perds 3 secondes dans l'exploitation ou 5 secondes sur ton aérostand, tu peux en gagner 15 ou 20 sur la piste. Et donc forcément, je pense quand même que ça peut jouer. Après, on les a déjà vus se battre entre eux aujourd'hui, dès le début de la course, donc il va falloir garder la tête froide. Et en termes de tête froide...
C'est une équipe Ferrari.
Voilà, en termes de tête froide, on n'est pas au super niveau. Je pense notamment à James Calado qui la perd assez rapidement, sa tête, justement. Mais ça pourrait
être pire, hein. Il pourrait avoir Dan Tiktoum dedans. Hein.
Oui, il serait même pas arrivé à la mi-course avec Tiktoum, donc faut pas s'inquiéter. Je pense qu'il y a quand même moyen qu'il fasse troisième, parce qu'il y a, pas un monde loin de là, mais quand même, par rapport à Cadillac et Porsche, il y a pour moi suffisamment d'avance en piste pour gérer ça. Après, effectivement, si on a 15 safety cars d'ici à demain matin, 10h du matin, à 10h du matin, ils seront toujours 2 secondes devant les Porsche. Et forcément, là, ça jouera un rôle.
Ouais.
Mais si la course est fluide, je les vois bien faire troisième.
Est-ce que tu as des choses à ajouter ?
Écoute, non, à part que vous pouvez nous retrouver, évidemment, dans le Racing Café. Parce qu'on parle même de Sim Racing de temps en temps. Pas aussi bien, mais on en parle.
Pas aussi bien, pas souvent. Mais comme j'écoute tout le temps, je pourrais inciter plus à en parler.
Exactement. Hey, mardi, on teste F1-23. Alors oui, c'est presque du Sim Racing. Ça n'en est pas tout à fait.
Alors, ouais, dans Live Sim, on ne fait pas la distinction entre le hard sim racing et le casual sim racing, ou casual racing. Moi-même, je milite pour qu'il y ait du cross-platform, pour que les joueurs consoles puissent jouer aux jeux PC, et ça, c'est en train d'arriver, donc c'est quand même une bonne chose, parce que tout le monde n'a pas un PC de taré.
Et
si tu as envie de progresser, c'est sûr que c'est sur le PC qu'il faudra avancer, mais si tu as envie d'avoir... de commencer sur console, si ça te plaît, tu achèteras un PC et ce sera marcheur aussi.
Exactement, non, il faut effectivement faire ça. En plus, Codemaster met le cross-platform maintenant, donc ouais. C'est aussi très 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 bien. Et puis, ça c'était le petit côté, tu vois, petite pique, mais moi je fais partie de ceux qui les défendent, parce que c'est pas non plus si simple de faire un jeu qui plaise, enfin qui doive à la fois plaire aux simracers qui vont chercher une expérience assez pointue, ouais. Et au mec qui va juste acheter sa PS5, qui a 10 minutes pour jouer et qui veut juste se faire un Grand Prix rapidement. C'est très compliqué de faire les deux. J'ai été critique envers eux sur les dernières années parce qu'ils allaient dans une direction de ressenti de voiture qui était tellement différente d'autres plateformes beaucoup plus accessibles qui forcément moi me perdaient. Mais là apparemment ça revient dans la bonne direction, donc à voir.
C'est quoi le jeu que tu préfères toi aujourd'hui ?
Moi j'ai toujours été un fervent passionné d'iRacing, mais c'est toute l'atmosphère en fait. Moi c'est que, comme certains le savent peut-être, j'adore l'IndyCar et je suis vraiment passionné de ça, donc c'est la seule expérience aujourd'hui ovale qui est satisfaisante. Voilà, il n'y en a vraiment pas d'autre qui est vraiment satisfaisante hors ligne ou en ligne. Donc pour moi voilà, ça reste la meilleure plateforme. Après, Factor 2 en termes de simulation de physique reste pour moi quand même la référence.
Et assez tôt Corsa compétitionné ?
C'est pas mal, j'avoue que j'ai aussi beaucoup apprécié et été assez surpris parce que c'est bien fichu aussi avec notamment le cycle jour-nuit et la pluie. Moi, la limitation, c'est que c'est du GT3. Et donc forcément, dès que tu limites très fortement ta plateforme, c'est un peu... Moi, je fais partie de ces gens, justement. Je vais pas apprécier faire 15 000 tours pour maîtriser un circuit. Moi, je préfère, et ça, je milite pour ça, et je rêve un jour qu'on mette en place des plateformes ou quoi que ce soit, où tu arrives et vraiment, tu as tes 45 minutes d'essai, ta séance qualif et ta course, mais tout le monde découvre les conditions au même moment, t'as pas de réglage qui traîne ou quoi, parce qu'aujourd'hui, évidemment, vous allez me dire sur iRacing par exemple, bah, tu as plein de réglages de plage, de par exemple de température, mais les meilleurs simracers, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un réglage qui marche quand il fait 27 degrés sur la piste, un pour 28, 29, et puis ils cliquent juste sur leur truc, ils ont la voiture qui est parfaitement réglée. Et ça, c'est ce qui me... c'est ce qui me manque, mais c'est évidemment compliqué à faire sur un PC et sur un jeu, mais c'est ce côté adaptabilité où moi, bah voilà, c'est ce que je préfère, je vais pas passer vraiment des heures et des heures pour maîtriser un combo. J'aime bien l'éclectisme et pouvoir passer d'un à l'autre.
Moi, je suis un peu dans l'inverse, moi, justement. Quand je roulais, je roule moins maintenant, mais quand je roulais, j'aime rouler pour les setups, pour avoir la télémétrie. Donc, tu vois, on a deux manières, deux approches différentes du simracing. Et voilà, on s'entend bien aussi. Donc, pour rouler ensemble, c'est pas un problème non plus.
Exactement.
Donc, je te remercie.
Merci, Jacques.
Et à l'occasion, dans Live Sim ou dans le Racing Café, quand je mettrai en commentaire.
Avec plaisir, avec grand plaisir.
Sur le forum Racing FR, une rencontre avait été organisée autour de 18h30. Le temps de me changer, je l'ai rejoint, et le premier à bien vouloir se faire interviewer, c'est Bulit. J'ai vite vu qu'il était bavard, je me suis isolé, et vous allez voir, il a pas mal de choses à raconter.
Ben salut, moi c'est Maxime, puis mon pseudo c'est Bulit. Je suis membre sur RFRO depuis la sortie de Project Cars 2, plus ou moins.
Ouais.
C'est là où je me suis vraiment mis sérieusement dans le sim racing, sinon avant c'était principalement sur console, sur des Forza GT, j'avais eu du GTR2, mais avec du volant à ressort, sans force feedback, rien du tout. Je suis du Pas-de-Calais, je suis à Lensois, pure souche.
Allez Lens,
complètement allez Lens. Et j'ai été passionné de sport auto depuis vraiment tout petit. En famille, on regardait la Formule 1. J'ai vraiment commencé par ça, les années 90, avec les V10 qui chantaient comme des furies. C'est vraiment ce qui m'a...
Il y en avait aussi ici, hein.
Oui,
des
oui.
V10 qui chantaient. Hein.
Ah oui, il y avait même des V12 avant. Et je suis bien déçu de pas pouvoir, d'être encore trop jeune pour. Où j'étais pas encore né à l'époque des fameux V12 Matra, les gros V10 qui chantaient bien fort. Mais du coup, ouais, j'ai commencé en fait mon pied étrier dans sport auto. C'était vraiment en famille les dimanches quand on regardait la F1. Et petit à petit, plus tard, j'ai découvert, notamment grâce aux jeux vidéo, les 24 heures du Mans, le circuit du Mans que j'ai adoré tout de suite. Et un peu plus tard, en grandissant, à chaque fois que c'était le week-end des 24 heures, comme je pouvais pas y aller et que mes parents n'étaient pas spécialement intéressés par ça, au départ,
ouais.
Parce que je reviendrai là-dessus après, et n'étaient pas spécialement intéressés par ça, donc en fait, je me faisais ma zone, on avait, à l'époque, c'était encore Eurosport, donc on avait, ils faisaient 24 heures d'intégralité, j'avais ma zone dans le salon avec la cafetière, les petits trucs à grignoter, les chips, et pendant 24 heures, ils savaient que c'était mon week-end. Quoi. Donc ça a commencé comme ça pour mon histoire avec les 24 heures du Mans, et en 2014, avec le camping-car, j'ai essayé de motiver mes parents en disant « Allez, là, faut y aller, le Mans, c'est unique ». Et il me disait, ouais, mais tu sais, 24 heures de voiture qui tourne en rond, nous on aime bien, mais en 24 heures, ça va être long, on va s'ennuyer. Et je les ai travaillés au corps, leur expliquant l'expérience, l'atmosphère, le côté festif de la chose. Donc la première année, 2014, donc j'ai réussi à les faire venir.
Ils sont venus au camping ou ils sont allés dans un camping au loin ou ils ont fait le camping de...
Non, on a fait un camping au Mans, on était à Beau Séjour.
Okay.
On devait être à Beau Séjour, mais quand on est arrivé, donc pour la première année, on est venu que arriver le vendredi soir, que pour le samedi-dimanche.
Donc c'était blindé.
C'était blindé et donc ils nous ont dérouté sur l'aire qui maintenant s'appelle Épinette, mais qui n'existait pas encore à l'époque.
C'est où ça maintenant?
C'est en face du camping du Houx. Okay. C'est entre le camping du Houx et l'hippodrome. Et on a adoré cette ère-là, donc les années suivantes on est revenu. Mais donc pour revenir à l'histoire avec les parents de pourquoi ils ont voulu revenir, au départ ils ne voulaient pas. Et le dimanche après-midi, quand on était posé tranquille dans les transats, à regarder la fin de la course, et après qu'ils aient vu le village, l'ambiance, l'atmosphère, le côté festif de la chose, ils ont dit « prochaine fois qu'on vient, on vient sur la semaine ». Et c'est même pas moi qui ai demandé, c'est eux qui se sont dit la prochaine fois qu'on vient c'est toute la semaine. En 2015 ils ont pas pu venir, donc j'étais venu avec ma copine de l'époque, on s'est pris un Airbnb et du coup on était là en voiture avec un parking. C'était une expérience un peu différente parce que la fiesta dans le camping c'est la fiesta, hein. C'est le bordel de partout, c'est juste énorme. Tu connais personne, t'as des gars qui se promènent, ils arrivent, viens boire un coup, vas-y, c'est l'apéro. c'est puis ça chante, ça chante, ça danse, t'as des voitures de fou, tu vois des mecs arriver en galardo qui te sortent l'attente deux secondes, tu te dis mais c'est, ça dénote quoi. Bon, forcément dans une galardo tu peux pas rentrer beaucoup plus.
Moi j'ai vu une Diablo et derrière il y avait une caravane.
Ouais. Une Diablo avec une caravane.
Ouais,
alors, ça c'est assez unique.
Ah, c'est assez unique. Alors je dis, je vais voir derrière la Diablo pour voir s'il y a la boule. Non, il n'y avait pas la boule. Alors je demande au propriétaire, mais comment t'as fait pour la faire venir? C'était des Anglais. Pour ceux qui ne savent pas, hein, Le Mans, c'est, moi je le dis toujours, hein, le camping, il y a beaucoup d'Anglais. Et c'est une course anglaise qui a lieu en France. Donc on a la chance.
Il y a énormément de Danois aussi.
Ouais, mais alors Christensen maintenant, oui évidemment. Moi, les époques où j'ai pas mal bourlingué ici, il y avait beaucoup d'Anglais. Et c'est vrai que c'est assez magique parce que tu vas les voir. Il y a la première fois que je viens, je te jure, c'est une histoire vraie. Hein. La première fois que je viens, donc je raconte qu'une fois parce que sinon je vais la raconter à tout le monde. Je vois une voiture et je vois sur la voiture, il y avait un panneau et c'était marqué The Pop Car. Et le type, il était au-dessus de la voiture. Alors je demande, c'est quoi ton truc? Et il était au pied des grilles au niveau du karting là-bas.
Mm-hmm.
Et j'arrive, je lui demande, c'est quoi le pop-car? Donc ce que tu disais, hein, en gros, c'est, il me dit, viens, monte, ça va être plus simple. Donc je monte sur la voiture, sur le van. Et donc il venait d'Irlande, le type. Et c'était la voiture que Paul VI avait utilisée, le pape. Pop, c'est le pape.
Mm-hmm.
Que la voiture, Paul VI avait utilisée en Irlande. Et il venait au Mans tous les ans.
Ah, donc c'était,
il était mort depuis longtemps, Paul VI.
Ouais, ouais.
Donc c'était une voiture qui avait déjà 30 ou 40 ans.
Mais les Anglais, c'est des génies. C'est des génies. Moi, je vois, il y en a, ils ont des campements. Les gars, il y en a dans le camping, j'ai vu. J'en connais quelques-uns à qui j'ai fait à Miami. On se revoit tous les ans. Et j'en ai même vu des campements. Les mecs, ils se sont reconstruits une ambiance pub sur leur campement. Ils arrivent avec toutes les structures, machin. Tu rentres de Nantes, t'es dans un pub.
Ouais.
T'as les cacahuètes accrochées. je te jure, t'as les paquets de cacahuètes. Tu sais, les trucs à tirette, là.
Ouais.
Les paquets de cacahuètes, ils ont les porte-bouteilles. Comme quand on
a un vrai...
La tireuse à bière, le pub 100%. Et pareil, les Anglais, c'est aussi des artistes. En plus d'être des génies. Ce qui est marrant, c'est une fois que le Mans est fini, c'est de faire le tour des campings et voir les structures en canette que les mecs sont capables de monter. On a vu Notre-Dame de Paris en canette de Cronenbourg. Mais c'est des génies, les mecs.
Et donc, tu roules aussi au Mans en virtuel ?
Je roule au Mans en virtuel, oui, beaucoup. C'est que ce soit sur le petit circuit, enfin le circuit permanent, le Bugatti, ou sur le grand circuit. J'ai fait pas mal d'endurance, d'ailleurs, sur Project Cars 2. Parce que en plus, Il y a le cycle jour-nuit, c'était l'un des premiers jeux à avoir un vraiment cycle météo et cycle jour-nuit vraiment bien fait. Et c'est vraiment ce qui m'a attiré sur P-Cars 2 d'ailleurs. Et après, bon, P-Cars 2 c'est un peu décliné depuis. Maintenant je suis sur Assetto Corsa Competition. Ça marche très bien le jour-nuit, les endurances en équipe aussi, on peut se faire des 24 heures avec 3-4 mecs avec qui on se partage le volant, du coup c'est pas le Mans, mais on a l'esprit du Mans à devoir se partager la voiture avec d'autres pilotes, trouver un setup qui convient à tout le monde, trouver, savoir se caler les stratégies, être là aussi, parce que quand tu roules pas, ben, du coup tu fais le spotter, tu lui dis tiens la voiture devant, là on se bat avec un tel, tu lui reprends une seconde autour où il est en train de te reprendre, dans le secteur 2 tu es un peu plus vite, et ça donne vraiment cet esprit endurance comme il peut y avoir en vrai dans les 24 heures.
Je suis d'accord avec toi, c'est ça qui est magique. Aujourd'hui, je pense que le Covid a fait du mal à la France et au monde en général, mais sur cette partie-là, il y a eu des communautés qui se sont créées, des courses qui se sont créées. Et une fois que tu as accroché ça, tu ne peux plus revenir en arrière, c'est fini. Hein.
Ouais, c'est sûr. Et du coup, avec le Covid, moi aussi, je me suis tellement mis vraiment dedans, à fond dans le sim racing, le pilotage, tout ça. Et je me suis dit, mais le virtuel, c'est bien, mais j'aimerais bien tenter le réel quand même. Donc, je me suis acheté une petite voiture pour le week-end que je préparais pour l'été.
C'est quoi ta voiture ?
Une 325 Ti Compact E46. Donc, j'ai commencé à faire du track day avec. Et en fait, le sim racing, bah, je pense que ça m'a, je vais pas dire ça m'a appris à piloter, mais ça m'a donné des ressentis, des sensations, où tout de suite dans la voiture, quand je commençais à la pousser, je savais me dire, ben tiens, là, peut-être en setup, je peux changer ça. Enfin, il me faudrait que ma voiture elle soit plus comme ci, plus comme ça, sauf que la voiture de série n'est pas réglable. Donc il fallait commencer à changer des pièces, etc. J'ai fait ma liste et j'ai dit, bon, ben, j'ai pas le budget. J'ai pas le budget pour faire toute la liste, ou alors avec ce budget-là, ben, je peux m'acheter quelque chose qui va beaucoup plus vite. Bah, c'est ce que j'ai fait. Je me suis acheté d'occasion au moment où il changeait dans le championnat, je me suis acheté un Fenio 5. Donc ouais, la Fenio 5, c'est un sport proto qui est fait ici au Mans. C'est une petite barquette biplace, mais enfin, ça n'a de biplace que le nom. Donc c'est un châssis tubulaire, moteur de 206 RC, boîte de 206 RC, des trains roulants de 205 GTI à l'arrière et de Renault Clio ou Mégane à l'avant, quelque chose comme ça. C'est fait très simple, ça a été fait par Yves Auran, qui a créé le Fenio, un gars pur passionné. Il a fait ça dans son garage, essayé de construire ça tout seul. Et donc ça fait un peu moins de 200 chevaux pour 600 kg. C'est que de la pièce de série, donc c'est très simple à entretenir. Si quelque chose casse, tu vas sur Internet, tu vas à Noroto, Oscaro, peu importe, tu trouves des pièces de rechange. Et ça va très très vite.
C'est le poids qui... Light is right. Hein.
J'étais sur un track day par exemple avec McLaren 720S. Donc le mec, 720 chevaux, dans les lignes droites, le mec me fumait. Mais par contre, t'arrives sur les freinages, dans les virages, mais tu reprends tout le monde. Genre, quand le gars freine aux 200 mètres, toi, tu freines aux 75. Et ce qui fait que sur un tour, je tournais 2 secondes plus vite que la 720S.
C'est marrant. Hein.
Ouais. Ouais, ouais, bah, surtout que forcément, le gars voit la voiture, il voit que je tourne plus vite, il vient se renseigner sur la voiture, il demande combien ça coûte, parce qu'il veut un peu en imposer, genre, hey, t'as vu, j'ai une 720S.
Ouais, mais tu peux pas rouler sur la route avec.
Ouais, je peux pas rouler sur la route, mais bon, je me mets une remorque, une remorque, en plus, c'est léger, t'as pas, si tu prends la bonne remorque, t'as même pas besoin d'avoir le permis E. Donc non, franchement, c'est vraiment mon kiff. Je fais que du track day, je fais pas de compétition. Enfin, j'ai fait une compétition l'année dernière, juste pareil, j'avais un peu d'argent de côté. Je me suis dit, bon, le track day, c'est sympa, mais tu vois, toujours l'étape au-dessus, encore plus, parce que bah, tu prends le virus, quoi, de plus en plus. Donc le championnat Fenio, l'année dernière, roulait sur des circuits sympas. Ils ont fait Imola, ils ont fait Barcelone, et dans le championnat Fenio Endurance, ils ont fait Spa aussi. Et du coup, je me suis loué une Fenio SP05, donc les dernières générations, en demi-baquet sur le circuit de Barcelone.
Bah, c'est marrant, ça.
Ah, franchement, c'est une expérience. Au départ, je m'étais dit, vas-y, je casse les plans d'épargne. Je m'autofinance parce que bon, trouver des sponsors, c'est très, très compliqué. Parce que le sport auto, oui, il faut le redire, ça coûte très cher. Ça coûte très cher, donc sans sponsor, ben voilà. Moi, là, j'ai cassé mes économies que j'avais sur 10 ans juste pour me faire le rêve d'une vie. Et je me dis qu'il faut que je recommence à économiser parce que j'ai tellement pris mon pied que je veux le refaire. Ça m'a ruiné, mais je veux le refaire.
Bon, en attendant, tu peux rouler en sim racing.
Ouais, je peux rouler en sim racing. J'ai toujours mon Fenio à la maison, mais rouler en compétition, en fait, je me suis rendu compte que tu peux faire 10 ans de track day, t'en apprendras jamais autant qu'en un week-end de compétition.
Ouais, je suis pas étonné.
C'est juste monstrueux, la gestion de la course, la gestion de la pression. Vraiment la pression, parce que t'es là, en plus tu te dis c'est la seule fois, peut-être la seule fois de ma vie où je vais le faire, donc tu te mets une pression de résultat, tu veux bien faire, et aussi tu te mesures aux autres, parce que quand t'es en sim racing, tu dis bon bah je suis dernier, c'est pas grave, j'ai trouvé des gars avec qui marsouiller, mais là quand t'as payé tout ça, t'arrives là, t'as envie de bien faire, et de savoir où tu te situes par rapport à des mecs qui roulent là toute l'année, et quand tu fais forcément, je pense, des mecs comme moi qui arrivent vraiment au niveau amateur, là, tu as des pilotes qui jouent devant, c'est quasiment du semi-professionnel. Il y a des jeunes, s'ils m'écoutent, Romain Beauclerc qui roulait dans la même écurie que moi. Le gamin, il a 19 ans, c'est une fusée. C'est une fusée, il est préparé pour. Et forcément, un mec comme moi, amateur, il ne peut pas lutter. Il peut pas lutter contre des gars comme ça. Mais
c'est pas le même jeu.
C'est pas le même jeu. Mais de voir que dans le peloton, j'ai quand même réussi à me trouver une place et à pas être vraiment juste la chicane mobile pour tous les autres. Ça fait,
je précise, ce n'est pas Jacques Villeneuve que j'ai interviewé. Un petit troll, comme ça, pour le plaisir.
Non, mais moi, j'étais pas devant, j'étais pas derrière, je me battais vraiment dans le milieu de peloton et c'était vraiment, vraiment sympa. C'était vraiment...
Bon, on va finir là-dessus. Merci, ouais, merci à toi. Et puis,
je parle
plaisir.
Beaucoup.
Non, c'était intéressant.
Comme je t'ai dit, j'ai beaucoup de choses à raconter. On n'a pas parlé non plus du fait que, en fait, j'habite en Finlande. J'ai oublié parce que...
Ah oui.
Ça fait 4 ans que j'habite en Finlande. Le Fenio 5 que je me suis acheté, je suis venu le rechercher en mission commando en plein milieu du Covid. Sur la semaine, j'ai fait 6000 bornes tout seul en solo sur la semaine. Où j'avais même pas la remorque que j'ai acheté aussi sur la même semaine, je suis allé chercher la remorque. Je suis parti vraiment de Finlande, comme on dit, avec ma bite et mon couteau. Juste la voiture, j'ai traversé la moitié de l'Europe pour uniquement me rendre chez le premier gars chez qui j'achetais la remorque. On fait les papiers, je mets la remorque sur la boule, je refais 200 bornes avec la remorque vide pour aller chez le gars chez qui j'achetais le fenio. Pour arriver à se rendre compte qu'au final, le gars mettait une monoplace dans sa remorque et que du coup, en fait, il avait soudé une structure dans la remorque pour mettre son barnum, tout ça, et ça passait pas avec l'arceau du fenio. Donc on s'est retrouvé genre à 23h en train de disquer la structure à l'intérieur de la remorque, monter le fenio, et une fois que le fenio était chargé, je suis reparti dans l'autre sens, je suis parti de Finlande, là où j'habite, je suis parti le lundi soir, le samedi soir, j'étais rentré avec le fenio.
Et tu roules là-bas, il y a des circuits hein.
Ouais, il y a des circuits là-bas, pas aussi grands qu'en France, c'est plutôt des circuits comme, on va dire, de la taille de Grand Ternois, peut-être le Vigan, des circuits un peu moins grands que par exemple Manicourt ou là le Bugatti avec peut-être moins de réputation, mais qui sont très très sympas, où ça roule beaucoup là-bas et ils ont un état d'esprit sur le track day qui est complètement différent de ce qu'on a en France, mais vraiment complètement. C'est très ouvert. Par exemple, si le manager du circuit est là et que le circuit est ouvert, si le circuit n'est pas réservé, n'importe qui peut arriver avec sa voiture. Tu payes, suivant les circuits, entre 20 et 50 euros pour une heure ou plus, hein, si tu veux rouler, si tu veux rouler plus longtemps. Et le mec te dit « Ok, c'est bon, t'as payé, va rouler. »
C'est magique.
C'est magique.
Bon, bah, super. Content d'avoir pu discuter avec toi.
Ben, moi aussi.
Le deuxième à être interviewé, c'est Stribond. C'est lui qui a organisé véritablement cette rencontre. Il est celui qui a rameuté tous ceux qui lisaient le topic sur Racing FR et qui venaient au Mans. Même si je ne le connaissais pas, il a eu la gentillesse de m'inclure au rendez-vous. Vous verrez, nous parlerons aussi de ceux qui font le Sim Racing et qui n'ont pas souvent la parole.
Et on se retrouve avec un nouvel interviewé, un nouveau Sim Racer que j'ai rencontré enfin virtuellement sur RFRO. Bah, je te laisse te présenter.
Moi c'est Samuel, mon pseudo c'est Stribond sur la RFRO. Donc effectivement, je fais un petit peu de sim racing, pas très actif en ce moment. J'y suis venu, bon, voilà, j'ai toujours aimé les sports mécaniques, toujours attiré par voilà, la conduite, les véhicules un peu rapides, les sports automobiles. Bien évidemment, comme beaucoup, question de budget. Hein. On ne peut pas trop forcément aller s'amuser, un stage ou deux par-ci par-là, à des occasions qu'on nous offre, qui donnent plus envie que satisfaction, souvent. Beaucoup de frustration, ça s'arrête quand on commence à maîtriser, enfin ce genre de choses, quand tout le monde a connu ça. Enfin, beaucoup ont connu ça. Donc voilà, après, bon, les années passent, des essais sur Gran Turismo, Gran Turismo 2, des choses comme ça, qui étaient plus arcade à l'époque. Le temps passe, et puis ben, voilà, au hasard d'un passage à la FNAC, je redécouvre des simu comme Project Cars 2.
À toi aussi, parce que voilà. C'était aussi Project Cars 2.
Et du coup, voilà, donc je redécouvre Project Cars 2, donc j'ai toujours été joueur. Petit joueur, mais gros jeu, donc j'avais déjà une grosse bête à la maison qui permettait de faire tourner ce genre de logiciel. Donc de toute façon, j'ai un PC qui tournait plutôt bien, alors je me suis équipé d'un Logitech, et puis voilà, donc après, j'ai commencé à un petit peu sur le jeu, à faire les carrières, à essayer un peu les courses en ligne. Comme tout le monde, sur les lobbies, on se fait défoncer par 2-3 abrutis.
Ah bah c'est les lobbies.
Et du coup, bah voilà, j'ai cherché un endroit pour essayer de faire des courses plutôt propre, et donc je suis venu, j'ai découvert la RFRO, j'en ai pas cherché d'autres quand je suis tombé dedans. On voit dedans qu'il y a beaucoup de gens qui sont passionnés, qui sont compétents, qui connaissent beaucoup de choses. Je suis atterri dessus il y a 5-6 ans, pas toujours très actif parce que voilà, la vie fait qu'on peut rouler ou pas. On va dire petit pilote, je fais souvent la voiture balai ou presque, enfin plutôt dans les derniers, le dernier cinquième du peloton en tout cas. Je suis content quand je finis une course.
L'important, c'est toujours d'avoir quelqu'un à rouler avec toi.
C'est ça. Donc bon, après, c'était compliqué dernièrement sur Project Cars 2 parce que voilà, c'est une simu qui, bah, tout le monde le sait, est un peu vieillissante, n'a plus beaucoup d'évolution, de moins en moins d'adeptes. D'ailleurs, bon, la RFRO l'a terminée récemment, donc bah, je vais passer là. Donc, je suis dans une phase où pas trop de temps de rouler, beaucoup d'activités personnelles et professionnelles. Pas de connexion internet.
Ah ouais, alors ça c'est rédhibitoire.
Et du coup, bah voilà, on repassait naturellement sur AMS2, voilà, qui est plus qui dérive naturellement de Project Cars 2 pour bah, essayer de rerouler avec les copains de la RFRO, quoi.
Toi t'es natif du Mans, enfin ou tu habites dans la région. T'es pas natif du Mans?
Non, moi je suis Lavallois d'origine.
Ouais, c'est pas très loin.
À côté de Laval, Bonchamp, et effectivement.
Toi, tu vois
cher étant, en étant d'Arnage d'origine, on s'est installé dans le coin parce qu'à l'époque, je travaillais à Paris.
Donc du coup, les 24 heures du Mans, tu le vis tous les ans.
Enfin, tous les ans, on vit avec. C'est, ben, on le vit avec, on est obligé de... Soit on y participe et on souhaite y aller, etc. Moi, c'est un événement qui m'a toujours plu, donc j'aime beaucoup le regarder. Je viens rarement au circuit, parce que j'aime bien suivre la course, ce qui est plus compliqué sur le circuit.
Ouais, sur le circuit, on fait des interviews.
Mais sur le circuit, c'est une ambiance. C'est quelque chose de particulier, c'est les stands, c'est les spectateurs, c'est choisir les bons spots où il se passe quelque chose. C'est un peu mesquin, mais on aime bien voir les dérapages, les sorties de piste, etc. On est tous un peu pareils. Là où il y a un bel écran géant aussi où on peut suivre, mais sinon, voilà, j'aime bien suivre à distance. Et puis, bah, quand on est sur Arnage, bah, on le vit au quotidien, que ce soit les 24 heures du Mans, les 24 heures moto, le Grand Prix, on l'entend à longueur de nuit. On entend les spectateurs, on entend toute la nuit le son des prototypes ou des GT qui remontent les Hunaudières, etc. Quoi. Donc forcément, on vit avec la circulation, avec les habitants. Moi, depuis cette année, je loue également pour des personnes qui viennent dormir à la maison pour participer à l'événement.
Bah oui, c'est aussi c'est normal. Hein. Il y a tellement de monde qu'il faut bien accueillir tout le monde, quoi.
C'est ça. Donc nous, on le vit des fois par procuration parce que bah on sait que ça se passe. On fait avec, en fait, on doit s'adapter. Moi, c'est quand même un événement qui est super important, je trouve, pour la France d'abord, parce que bah, c'est quand même une course mondialement reconnue. Et puis bah, pour
une
notre
des région, trois.
Une des trois de la triple couronne, hein, bien évidemment. Une des trois plus importantes pour la Sarthe et le Mans en particulier. Donc faut qu'on fasse avec. C'est un événement, il faut accepter. Ça permet déjà au Mans de rayonner, au Mans d'avoir des retombées commerciales énormes pour la ville, etc. Étant résident, il faut qu'on fasse avec. Il faut qu'on accueille tout ce public le mieux qu'on peut pour qu'il continue à venir.
Il y a du monde hein, cette année. Hein.
Alors j'ai eu plusieurs fois la chance de venir sur le circuit dans différentes conditions, que ce soit les journées ouvertes ou sur le pitwalk, les journées d'essai, les journées de course, ou même circuler autour de la ville du Mans ou aller sur les parkings. Je n'ai jamais vu ça. C'est exceptionnel, une affluence jamais vue. Je pense que quand ils annonceront les chiffres, ils vont battre tous les records de loin. Énormément de monde. Ce matin, je suis arrivé. D'habitude, quand je viens aux 24 heures, je viens entre midi et deux. J'arrive à me garer, j'ai jamais de parking, j'arrive à me garer, je m'installe, je trouve un spot, j'ai rarement de tribune, je trouve un spot. Ce matin, on est arrivé à 9h30, on arrive sur le fond du parking parce qu'il est déjà presque plein. Heureusement que j'avais acheté une tribune parce que bah, on voit que l'enceinte générale était déjà pleine à midi et demi. Quoi. Et j'ai jamais vu ça.
Nous, on était au tertre rouge pour le départ. J'ai jamais vu ça non plus. On pouvait à peine s'asseoir.
C'est ça. Mais en même temps, c'est pas tous les ans qu'une course qui a une telle renommée que Le Mans cumule plusieurs facteurs. Un, le centenaire, qui est déjà un âge très très respectable. Mais en plus, dans la catégorie Rennes, on voit revenir énormément de constructeurs et pas n'importe lesquels. Peugeot, 4 fois vainqueur. Porsche, 19 fois vainqueur. Ferrari, marque emblématique, mythique, qui n'a plus gagné depuis 65. Tout le monde le sait avec le film Le Mans 66 qui vient de sortir. Et tout ça contribue à... Ce sont des multiples facteurs qui en même temps contribuent à faire revenir de nombreux spectateurs au Mans. Et je pense que c'est très bien.
Et côté installation, comment t'es installé chez toi en simulation ?
Je suis installé léger, moi. Je suis installé avec un cockpit en bois, fait par moi-même.
Je suis exactement dans le même cas que toi.
Avec un Logitech G29.
Ah, moi je suis encore plus vieux que toi, moi j'ai un G27.
Voilà, donc l'idée c'est de passer sur du pédalier et du direct drive, un pédalier un peu plus abouti, peut-être un CSP V3 de Fanatec, et puis derrière peut-être rester dans l'univers Fanatec,
Si t'es dans l'écosystème Fanatec, ce sera plus facile.
C'est ça, moi je suis pas un grand spécialiste, je roule quand je peux. L'idée c'est d'avoir une configuration qui soit simple à gérer, mais qui me permette de pouvoir évoluer peut-être un peu plus, avoir plus de réponses, plus d'informations. Dans les bras, dans les pieds, pour pouvoir mieux maîtriser les véhicules que j'ai souvent du mal à gérer tout au long d'une course.
Ah bah c'est sûr que quand tu vas passer sur du load cell, parce que je te conseille de passer sur du load cell.
C'est une idée.
Il y a, dans les Fanatec, il y a du pas load cell.
C'est SPV3, quoi. Ouais. L'idée, c'est ça.
Ça va changer ta vie.
Après, j'en suis conscient, il y aura une période d'adaptation nécessairement où tout le monde le dit, on a l'impression d'avoir fait une connerie en changeant de matériel parce qu'on est moins vite, on n'a plus de repères et tout. Mais au final, avec l'apprentissage, je pense que ce sera mieux. Moi, aujourd'hui, mon vrai souci, c'est que j'arrive pas à trouver mes points de blocage au freinage, ce qui fait que plutôt que de faire du dégressif, je fais du progressif, ce qui, dans le cadre d'une conduite quotidienne, est très bien pour le confort, mais qui marche pas du tout si on veut être performant.
Tu vas surtout constater, enfin, quand tu vas passer, que tu vas freiner trop fort.
Certainement.
Et tu vas t'apercevoir que tu vas devoir reculer tes distances de freinage.
C'est ça. Bon, j'ai testé quelques installations là sur le circuit. Et effectivement, quand j'ai tapé dans les freins, bon, je suis un beau bébé, hein, 1m80, 130 kg, et quand j'ai tapé sur les freins, effectivement, je me rendais compte que je freinais trop tôt. Donc il y aura forcément une période d'adaptation, mais c'est aussi ce que je cherche, avoir quelque chose qui soit plus efficace, être plus performant là-dessus et pouvoir m'adapter.
Bon, bah super, merci à toi, et merci d'avoir organisé ce petit point avec les sim racers qui sont chez RFRO. Il y en a qui sont moins bavards, donc ils ont faim surtout. Donc on va les laisser et puis on va continuer notre week-end au Mans.
Et bien avec plaisir.
Ainsi se terminent les interviews du samedi. La suite était de retrouver les amis dans l'appartement au Mans. Pour mes précédentes 24 heures, j'avais toujours dormi en voiture, ce qui n'est pas très confortable. Mais en se couchant à 3 heures, on dort bien. Cette fois, mon collègue m'avait dit de venir avec mon maillot de bain, car on devait rejoindre un pote de son fils chez lui où il y avait une piscine. C'est la première fois que je vais au Mans avec un maillot de bain, vous imaginez ? Mais vu qu'il était tard déjà, on change de plan et on se retrouve chez d'autres amis pour un barbecue. C'est l'avantage d'avoir des locaux sur place. C'était bien cool, on a bien ri, on rentre sur les coups de 2 heures du matin, et là se pose la question de savoir si on veut se refaire un tour pour voir la nuit. Tout le monde est motivé, je suis ravi. À 3h du matin, on y va, direction le karting, et là, grosse surprise, la Peugeot est en tête. Alors certes, on n'a pas suivi toute la course pendant qu'on était chez nos amis, mais quand même, on n'a aucune explication sur place. Difficile d'entendre le speaker, on profite des écrans géants pour essayer de comprendre, mais entre-temps, elle se crache. La question du pourquoi ne s'opposera plus. En tout cas, la foule du départ a disparu et c'est bien plus agréable. La nuit ne ment pas, les 24 heures montrent comment les voitures sont sollicitées, les couleurs de chaleur rougeoient partout, surtout dans cette zone où nous étions, entre la sortie de l'enfilade des Porsches jusqu'au stand, les pilotes freinent jusqu'à sauter de vibreur en vibreur. Les voitures doivent être solides car c'est là que se décident les vainqueurs. À la fin, tout le monde est crevé et nous avons pu dormir du sommeil des justes afin de se préparer pour une nouvelle journée. Dodo, petit-déj, nous arrivons au circuit vers 11h. J'ai hâte car, dans la soirée, une des personnes du groupe m'a permis de contacter ma prochaine invitée. Tous ceux qui suivent l'actualité simracing doivent connaître Anna Honner, une jeune femme qui aime le sport auto, qu'on voit sur Twitch depuis quelques années maintenant, et c'est notamment parce qu'elle va participer au GP Explorer 2 qu'il était intéressant de discuter avec elle. Même si je sais qu'elle va sur les circuits pour s'entraîner, je vais pouvoir savoir comment elle utilise le simracing pour préparer cet événement.
Alors, je m'appelle Anna, 24 ans, et je suis créatrice de contenu dans le sport automobile, donc que ce soit sur les circuits ou alors en simracing aussi, beaucoup à la maison.
Et donc, on te connaît sur la chaîne Twitch Anna On Air et YouTube aussi, je crois.
Ouais, c'est ça.
Donc, un petit peu connu, tu fais le GP Explorer cette année et tu roules pas mal en simulateur pour faire tes contenus. Mais donc, du coup, tu peux te préparer. Est-ce que ça t'a amené quelque chose, selon toi, maintenant que tu as quand même fait pas mal de préparation sur les circuits avec la F4 ?
Ça m'aide complètement, dans le sens où je me prépare beaucoup. Je fais, je pense, 6-8 heures de simulateur sur les circuits qu'on fait. On s'entraîne pas que au Mans, plus pour le GP Explorer cette année. Donc ça me permet d'apprendre les circuits, apprendre les trajectoires. Et quand on arrive sur les sessions d'entraînement, de pas avoir à m'embêter à apprendre les trajectoires et à juste me concentrer sur la technique. C'est un gain de temps en piste qui est incroyable et qui, du coup, m'aide à pouvoir développer la performance en piste. Donc ouais, du simulateur pour bien apprendre les trajets.
Tu roules sur quel simulateur pour apprendre tout ça là, parce que c'est en fonction de ce que tu... J'ai vu des images des préparatifs de chez toi ou de chez Manon où il y avait la pluie par exemple. Donc ça, en fonction des simulateurs, t'as pas forcément la pluie en fait qui est générée.
Alors on s'entraîne toujours sur le sec et du coup on est sur Assetto Corsa pour pouvoir avoir un serveur où on peut mettre un peu les circuits qu'on veut, les voitures qu'on veut et rouler tous ensemble. Donc ouais, Assetto Corsa, après moi je fais d'autres simulateurs, mais pour le GP Explorer c'est Assetto Corsa.
Ouais. Et du coup, comment ça se prépare un GP Explorer concrètement ?
Eh bien, on va dire que pour ce qui est des sessions d'entraînement, les 2 semaines avant, moi, je vais faire beaucoup de simulateurs pour bien être au point sur mes trajectoires. Ensuite, on va avoir en réel les sessions d'entraînement. Et quand je rentre aussi, j'aime bien mettre en application ce que j'ai appris sur la piste, sur le simu, pour voir l'amélioration des temps, etc. Et puis, évidemment, pour la course, apprendre à rouler un peu tous ensemble aussi, c'est... vraiment histoire d'être plus à l'aise sur la piste, du coup en apprenant sur le simulateur, c'est assez cool.
Et t'as un ingénieur de piste ?
Alors dans IRL oui, quand je suis sur le simu, non, j'ai pas d'ingénieur, je fais toute seule, mais oui.
Ouais, Gwenegan qu'on a interviewé ouais. juste avant, qui est son ingénieur de piste. Comment t'es arrivé dans le sim racing? Parce que c'est pas commun pour une jeune femme de faire de la simulation auto, on en voit peu, pour être tout à fait franc.
Ouais, bah oui. Non, alors j'ai toujours été passionnée de F1 et de sport automobile en général. Et j'ai toujours fait un petit peu, mais sur les consoles, un peu de jeux type F1, etc. Et bah, pendant le confinement, je pense comme beaucoup de gens, oui. Je me suis un peu plus lancée sur les réseaux pour partager ma passion. Et évidemment, la simulation en a fait partie. Donc j'ai eu un simulateur, un volant, et puis j'ai commencé à découvrir d'autres jeux, plus simulation qu'arcade. Donc ouais, ça s'est fait un petit peu comme ça. Donc ça fait 3 ans à peu près que je fais du simulateur.
Comment tu définirais ton niveau aujourd'hui ?
On va dire que je fais plus ça pour m'amuser ou pour le GP je le fais assez sérieusement, mais sinon le reste du temps c'est plus de l'amusement que de la performance pure.
Mais c'est ça aussi, hein, ça reste un jeu.
Ouais, oui, je prends vraiment ça en loisir. Je suis pas là pour vouloir faire absolument de la performance ou quoi. C'est juste, je peux me détendre, m'amuser avec mes amis et rouler quoi.
Ouais, rouler c'est ce qui est le mieux. T'as fait des courses, des endurances ou des choses comme ça, parce que toi tu suis principalement, je sais que tu vas souvent au GT World par exemple.
Ouais.
Tu fais des choses sur assez compétitionné par exemple.
Oui, des fois on fait des petites endurances entre amis. J'ai aussi participé au Alpine Sport Series l'année dernière, à l'iFaster Cup aussi, où c'est des petites courses d'endurance sur assez Corsa Competition. Mais c'est des petits trucs pour l'instant. J'aimerais bien faire plus d'endurance, mais pareil, il faut travailler son niveau de concentration et tout. C'est pas trop mon fort, mais c'est quelque chose que j'aime bien.
Comment t'expliques en fait qu'au Mans, il y a beaucoup de joueurs qui sont là, et il y en a moins. Alors je connais pas le GT World, je sais pas s'il y a beaucoup de sim racers ou de joueurs, quel que soit leur niveau arcade ou PC. Comment t'expliques qu'au Mans, moi, il y a toujours du monde dans les discussions, à rencontrer. Il y a plus de simulateurs ici.
Ouais.
Tu vas en F1, il y en a jamais ou quasiment.
Je pense que de plus en plus. Dans les deux cas, les gens qui aiment la simulation commencent à se rendre un peu sur les circuits et à l'inverse, ceux qui sont sur les circuits commencent peut-être aussi à se mettre un peu à la simulation. Et pour ce qui est du GT World, l'avantage, c'est que le championnat réel est lié au championnat virtuel. Il y a un système de points en course virtuelle que les pilotes pro peuvent acquérir pour leur vrai championnat. Et puis, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont mises en avant pour le e-sport, le sim racing par SRO. Donc, ça fait un peu partie de la mise en valeur et ce qui fait que ça attire peut-être un peu plus de monde. Mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus sur les circuits, endurance ou GT de gens qui sont passionnés par le sim racing.
Je te remercie en tout cas pour t'être déplacé. Ah oui, j'ai une question. Tu étais chez Cool Racing, c'est ça ? Comment ça se passe la course là-bas ?
Bah écoute, ils ont perdu une voiture dans la nuit, mais pour la deuxième, ça a l'air de tenir pour l'instant. On verra, il reste moins de 2 heures de course. Mais ils ont perdu une voiture, donc l'ambiance n'est pas forcément
c'est toujours pareil,
en sourire. Quoi.
Bon. Mais c'est toujours une expérience. Moi, j'ai eu l'occasion avec l'iSim de venir ici dans les stands il y a 3-4 ans. Et c'est vrai que c'est incroyable.
C'est cool, c'est très cool.
Merci à toi.
Merci beaucoup.
Par rapport aux précédentes éditions où je suis venu, j'ai trouvé moins de simulateurs dans ces 24 heures. On en voyait, c'est sûr, mais je crois que... Et c'est mon hypothèse qu'il a fallu faire de la place. Tel que je l'imagine, l'organisateur n'a pas dû brader ses emplacements dans le village et mettre des simulateurs prendre la place évidemment. ACO et Motorsport ont cependant annoncé la semaine précédente les 24 heures qu'un nouveau jeu autour du WEC et des 24 heures du Mans sortirait en décembre 2023. Fort heureusement, une place avait été gardée pour présenter le jeu avec Thrustmaster. Je n'ai pas eu le temps de tester le jeu sur place faute de temps. J'ai préféré discuter avec Lewis de Motorsport Game. Première interview en anglais. Donc soyez indulgents pour le doublage, je me suis rendu compte au montage. La prochaine fois, j'enregistrerai sûrement différemment.
Je suis dans la partie Le Mans Ultimate et je suis avec...
Donc, je suis Lewis et je travaille pour Motorsport Game, l'éditeur qui publie Le Mans Ultimate Game.
Peux-tu nous dire quels sont les principaux composants de Le Mans Ultimate ?
Donc Le Mans Ultimate Game, c'est le premier jeu de World Endurance Championship depuis 20 ans. C'est basé sur le même moteur physique que Air Factor 2, donc avec la même physique, mais tout est reconstruit, donc les pistes sont remodélisées, les voitures sont remodélisées également. Il y aura plus de voitures, avec toutes les voitures de 2023, donc qui inclut les hypercars, les LMP1 notamment. LMP2, pardon. Of the World Endurance
Championship for 2023. La date de sortie du jeu est planifiée pour quelle période ?
Le jeu est prévu pour une sortie en décembre 2023 et on est sur un cycle de développement assez court puisque le jeu a été annoncé la semaine dernière et donc sortira en décembre cette année.
Quel est le pourcentage de l'avancement du jeu que les gens peuvent essayer ici ?
Donc là, la démo qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment une première version avec à peine 10% du jeu. Il y a uniquement pour le moment deux voitures modélisées dans cette version avec une seule piste qui est la piste du Mans. Donc le plus gros est à faire, la physique est là. Mais tout ce qui est éléments visuels, graphisme et UI reste encore à faire. C'est vraiment une première version pour donner aux visiteurs l'opportunité de tester cette première version.
Est-ce prévu d'avoir des bêta-testeurs dans le développement du jeu ?
Concernant une phase de bêta, pour le moment rien n'est arrêté, mais c'est quelque chose qui va être réfléchi. Pour le moment, beaucoup de feedback sont pris par les personnes qui jouent pour la première fois ici à Le Mans Ultimate Game. Plutôt en Q3 cette année pour une réflexion sur une phase de bêta, mais oui, c'est quelque chose qui est bien en cours de réflexion chez Motorsport Games.
Ok, thank you very much. I'll let you walk. Okay,
no problem. C'était chaud, hein? Bon, la prochaine sera en français. Vous l'avez compris sans doute, je suis dans le réceptif pour Le Mans Ultimate. Après l'interview de Lewis, je vais vous présenter Eric Minjouba de chez Trustmaster. Je l'avais rencontré deux fois à la présentation du frein à main Sparco et aussi à une Sim Racing Expo. Nous avions beaucoup discuté à l'époque. J'étais ravi de le voir et j'espère qu'on ne mettra pas aussi longtemps à se revoir. Attention, dans l'interview, il parle de nanomètres, mais en réalité, il faut entendre newtonmètres.
Bonjour, je suis Eric Minjouba et je suis en charge du e-sport et de l'influence internationale chez Trustmaster.
Donc on s'est déjà rencontrés, on s'est rencontrés exactement, je pense, il y a 5 ans pour la présentation du frein à main Trustmaster avec Sparco. Oui. J'avais interviewé justement Christophe et il m'avait dit qu'à l'époque, le cœur de Trustmaster, c'était le casual gaming.
Tout à fait.
Et je militais à ce moment-là pour moi c'était évident qu'il fallait le faire, c'était de faire à l'Otzel pour le pédalier T3PA qui était un peu, enfin pour moi qui était déjà vieillissant à l'époque.
D'accord, oui.
Et vous l'avez fait.
Oui,
vous n'avez pas fait que ça.
Non, mais effectivement, en fait, chez Trustmaster, on est en perpétuelle évolution, on essaie de se renouveler, etc. Là, il apparaissait très clairement qu'une des priorités, c'était le pédalier. Nos pédaliers, jusqu'à présent, bon, ils sont tout à fait corrects, mais on voulait offrir aux joueurs, à nos clients, une solution un petit peu plus poussée. À partir de ce constat, il était évident qu'il fallait aller vers le load cell. Donc, c'est comme tout, on a pris le temps de faire les choses bien plutôt que de le faire dans la précipitation, et on y est donc arrivé avec le TLCM, et qui s'avère être vraiment pour nous un bon succès. Je pense que ça répond à pas mal d'attentes. Après, bien sûr, il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers. Il y a plein de choses encore à travailler et faire évoluer la gamme.
Oui, il y a des concurrents qui font mieux, il y a des concurrents qui font moins bien. Enfin, voilà, c'est vous, c'est votre positionnement. C'était attendu. Vous avez bien fait.
Bien joué. bien visé. Chez Trustmaster, je pense qu'une des choses qui est vraiment très importante, c'est qu'on ne fait pas des produits pour se faire plaisir, on fait des produits pour répondre aux attentes de la communauté. Alors après, on peut pas, bien sûr, la communauté vaut beaucoup de choses, on peut pas tout faire en même temps, donc on priorise. TLCM, ça nous paraissait vraiment la priorité numéro un, donc on est parti là-dessus. Après, comme on peut le constater ici, il y a d'autres nouveautés, et l'autre chose qu'on nous demandait, l'autre solution, c'était Direct Drive. On a longuement pesé le pour et le contre. L'idée, c'était d'avoir un produit qui soit vraiment en phase avec notre perception du marché du Direct Drive. On n'est pas du tout dans une course une escalade à la puissance avec des 20, 30, je ne sais pas combien de nanomètres. Là, on est parti sur du 10 nanomètres.
Eric veut bien dire newton mètre.
Mais l'idée, c'est vraiment de proposer un produit qui soit très fidèle et très fin en termes de ressenti. C'est vraiment ce qui nous a motivés. Donc, on a annoncé et lancé dans la foulée la base T818 Direct Drive.
Qui est très beau.
Merci, c'est gentil.
Non, c'est vrai, hein. Oui. Il est très très beau.
C'est gentil, c'est très gentil. Et du coup, là, on a proposé une version Ferrari en bundle avec la roue SF1000 qui, elle aussi, avait rencontré un beau succès grâce à son écran, sa télémétrie, la qualité des matériaux proposés. Donc, je dirais qu'on continue notre petit bonhomme de chemin à notre rythme et puis bon, on espère que ça va satisfaire un maximum de
Il y a personnes. Encore des choses dans les tuyaux ou... J'imagine que tu peux pas en parler.
Mais... Non, malheureusement.
Non, mais il y a des choses dans ce genre de gamme qui arrivent dans les 2 ans qui viennent.
Alors, dans ce genre de gamme, au sens large, je dirais, je ne vais pas dévoiler les secrets de la cuisine, mais il y a toujours des choses. Il y a toujours des choses en évolution. Ne serait-ce que, par exemple, quand on a annoncé... le modèle Ferrari du Direct Drive, on l'a présenté dans le cadre du lancement de la saison de notre partenaire Ferrari Sport Series. Là, on a fait un petit teasing avec une roue qui arrivait. Juste avant, quand on avait dévoilé le T818 de Bassel, on avait aussi annoncé qu'il y avait des roues spécifiques qui allaient venir. Donc, ne serait-ce qu'autour de cette gamme de produits, enfin, autour du Direct Drive, il y a déjà plein de choses qui sont en cours, qui commencent à arriver et ça va continuer. Et sans pour autant délaisser le reste de notre gamme, parce que ce qui est très important pour nous, c'est qu'on puisse satisfaire un maximum de consommateurs. On ne va jamais laisser tomber nos consommateurs, je dirais, qui sont plus dans une approche découverte du sim racing. Enfin, je dis sim racing, mais ça pourrait être le flying et puis également les contrôleurs. C'est vraiment quelque chose à laquelle on tient fondamentalement. C'est de pouvoir proposer une solution qui permette aux petits piou-piou, quelque part, ou aux néophytes, de commencer, de s'initier, de prendre plaisir, et puis petit à petit de progresser et de trouver sa voie. Quand on parlait du frein à main, c'est un très bon exemple. Le frein à main, je pense qu'on ne commence pas par jouer avec un frein à main, on commence par jouer avec un volant, après on se spécialise un petit peu plus dans le rallye, et puis après on se dit qu'avec une roue rallye, ce serait très sympa d'avoir un frein à main et d'avoir une boîte séquentielle, et ainsi de suite. Donc l'idée, c'est vraiment de permettre, via un écosystème de plus en plus riche et qui se renouvelle, de proposer une solution à tout un chacun.
Moi, ce que j'avais vu avec le frein à main, moi, ce que j'avais surtout vu, c'était qu'en fait, on changeait de catégorie. Jusqu'à présent, Thrustmaster, non, on parle d'il y a 5-6 ans, oui. Ils avaient plutôt des périphériques qui étaient, on va dire, plus plastiques. Là, on était vraiment dans du métal. Et ça changeait, en fait, moi, ça m'a changé aussi. Je ne m'attendais pas à ça, en fait. Tu vois, c'est,
oui.
Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, ça y est, ils y vont au Direct Drive. Ils y vont au...
Oui.
Et ça a pris un peu plus de temps. Le Covid, on en parlait tout à l'heure en off.
Tout à fait.
Le Covid a sûrement changé des choses.
Oui.
Si tu veux en dire un mot.
Le Covid, en fait, alors malheureusement, on est passé par cette pandémie. Alors après, il y a eu... La conséquence première, c'est que les gens sont restés malheureusement confinés chez soi. Et puis, en étant confinés, on se dit, mais quoi faire? Comment s'occuper lors de son temps libre? Et puis, finalement, le jeu a trouvé encore plus sa place. Et surtout, maintenant, le permettre de jouer en réseau, ça permettait aussi de sortir un petit peu quelque part de son confinement, même si c'était de manière virtuelle. C'était intéressant. Et une fois que les gens ont découvert, les gens se sont équipés, clairement, alors pas uniquement avec nos produits, bien entendu, mais ils se sont équipés, clairement, d'accessoires de jeu. Et je pense qu'une fois qu'ils ont eu goûté à ça, ils ont continué à le faire. Et c'est ça qui est intéressant. Je pense que c'est vraiment une nouvelle manière de jouer, une nouvelle approche culturelle aussi, dans le monde de l'entertainment, comme on dit. Et voilà, ça a ouvert des nouvelles portes. Et puis... Et elles ne se sont pas refermées avec la fin du Covid.
Tant mieux. Je te remercie.
Merci beaucoup.
C'était imprévu, mais je suis content de te revoir.
Je pense, mais moi aussi, parce qu'on prend toujours plaisir à échanger.
Ouais.
Puis, vraiment, c'est voilà, c'était très sympa et ça m'a fait énormément plaisir à vous aussi.
Merci et bonne continuation.
Merci, toi aussi.
Nous arrivons déjà à la dernière interview et j'ai bien cru qu'on n'aurait pas pu la faire. J'ai attendu la fin des 24 heures et même la fin des podiums pour qu'on puisse se voir. Il s'agit de Thomas Bastin. Si vous allez sur les circuits ou si vous regardez le sport auto, vous avez forcément entendu sa voix enthousiaste. Pour ces 24 heures, il était speaker pitlane. C'est quelqu'un d'adorable qui aime le sim racing et qui fait partie du monde du real racing. Merci Thomas.
Bonjour, nos auditeurs ne te connaissent pas forcément. Mais tu as une voix quand même assez connue dans le monde du real racing.
Ah, il paraît. Moi, Thomas Bastin, je suis commentateur sportif automobile, effectivement, depuis à peu près 20 ans. Entre autres, commentateur principal en français, en tout cas, du Fanatec GT World Challenge Europe, des 24 heures de Spa, du coup, du championnat de France GT, et speaker pitlane en 24 heures du Mans. Et puis bon, voilà, je fais pas mal d'autres choses sur le côté, mais on va résumer à ça.
Et tu es aussi simracer?
Je suis simracer quand j'ai le temps.
Ouais,
ce qui veut dire beaucoup l'hiver et très très... Enfin, un peu l'hiver et très très peu l'été. Oui, j'ai un simulateur, j'ai un chouette simulateur triple écran que je me suis offert il y a quelques années maintenant avec effectivement Fanatec Direct Drive et le matériel qui va bien pour se faire plaisir de temps en temps. Et ça m'intéresse non seulement pour le côté amusant, mais je vois que ça me sert aussi réellement au niveau professionnel. Donc, c'est quelque chose qui me plaît bien.
Oui, et puis il y avait des discussions. Alors, au moment du confinement, j'avais suivi ça. J'avais réagi aussi, je pense, dans les commentaires sur Facebook aussi, avec Laurent Mercier, où vous étiez pas d'accord sur la finalité, pour être gentil, sur la finalité du sim racing. Évidemment, Laurent, lui, préfère le full real racing, mais au moment du confinement, il n'y avait plus rien. Donc, le sim racing était aussi un moyen de faire du contenu et de faire des choses, quand même, malgré tout, qui ressemblait assez au real racing pendant qu'on n'avait pas le droit d'en faire.
Oui, après, la discussion avec Laurent Mercier, c'était assez amusant parce que lui disait le jour où il n'y aura plus que du sim racing, je ne commenterai plus de course de voiture. Et il avait, enfin, il y a eu un moment où les gens ont eu peur que le sim racing puisse remplacer vraiment le real racing, comme tu dis. Moi, je pense que d'abord, s'il n'y a pas de real racing, il n'y a pas de sim racing. Parce que oui, ce qui intéresse les gens, et on le voit, les circuits imaginés, c'est pas marrant. Les circuits qui ont le plus de succès, ce sont les circuits comme Le Mans, ce sont les circuits comme Spa, les circuits qui existent vraiment dans la vraie vie. Ce sont des voitures qui existent dans la vraie vie. Je pense que ça, c'est vraiment le lien. En fait, le sim racing, c'est une retranscription finalement digitale de la réalité. Et c'est ça qui est excitant. C'est avoir l'impression qu'on peut s'immerger dans ce monde-là, de prendre un petit peu de ce monde-là. Alors, le débat qu'on a souvent eu avec Laurent, c'est est-ce que le sim racing, c'est du pilotage? Est-ce que c'est de l'intérêt? Est-ce que c'est la même chose? Alors non, évidemment, c'est pas la même chose. Moi, je suis assez catégorique là-dessus, où pour avoir déjà eu l'occasion d'essayer des vraies voitures, il n'y a pas, évidemment, cette notion de peur, il n'y a pas cette notion de danger, il n'y a pas cette notion de sentir la voiture comme on peut la sentir quand on est vraiment bien dedans.
Mais il y a cette notion de pression, par contre.
Par contre, il peut y avoir une notion de pression, effectivement, ça je suis convaincu. Et je suis convaincu que c'est un très très bon outil d'entraînement, par contre. Donc ça, j'ai aucun doute, et j'en ai souvent parlé avec des pilotes pros, etc. Je suis convaincu que c'est vraiment un outil qui permet de s'entraîner, de préparer les courses pour les pilotes professionnels.
C'est le seul sport où on ne peut pas s'entraîner.
En tout cas, c'est un sport où ça coûte cher de s'entraîner. Je ne dis pas qu'on ne peut pas s'entraîner, mais c'est sûr que autant un joueur de tennis peut aller taper la balle à peu près tous les jours ou un jogger peut aller courir à peu près tous les jours, autant effectivement un pilote de course ne va pas avoir l'occasion de rouler dans une voiture de course tous les jours, en tout cas pour la plupart. Et donc, c'est vrai que le sim racing constitue vraiment une bonne alternative. Et dans la préparation, enfin moi j'en parle souvent avec les pilotes, dans la préparation des circuits pour rentrer dans le rythme, ça a tellement évolué sur les dernières années en termes de réalisme des circuits, en termes de réalisme du comportement des voitures, même en termes de réglages. Alors évidemment, les réglages qu'on va faire en sim racing ne vont pas être les mêmes sur, je ne sais pas moi, si on prend l'Oreca LMP2, enfin en l'occurrence ce n'est pas une L'Oreca, mais une Dallara LMP2 sur iRacing et qu'on prend une dans la vraie vie, on ne va pas avoir le même type de réglage exactement. Il y a parfois des trucs qui ne sont pas tout à fait collés à la réalité. Je crois qu'on en avait beaucoup parlé à l'époque des 24 heures du Mans virtuel qui en 2020 ont quand même été, moi j'avais eu la chance de les commenter pour la télévision belge, et je pense quand même que ça avait été pour le sim racing de manière générale vraiment un événement tournant. Et c'est vrai que je parlais à l'époque avec des vrais ingénieurs, puisqu'il y avait de vraies équipes qui avaient engagé de vrais pilotes, etc. Et je parlais avec des vrais ingénieurs qui disaient en fait qu'il y a moyen d'exploiter. Ils essayaient parfois des trucs complètement ahurissants, parce qu'en fait ils se rendaient compte qu'au niveau informatique, il y avait moyen d'exploiter entre guillemets des failles de l'informatique, et qu'on pouvait essayer des trucs qui en réalité n'auraient pas marché, mais qui sur l'ordinateur marchaient. Donc voilà, ça c'était un peu, donc tout ça pour dire qu'on n'est pas encore dans la réalité, mais j'en reviens au fait que oui, ça revient au même. Enfin, moi je donne toujours l'exemple qui est assez amusant de Brands Hatch, où quand nous on commande le GT World Challenge, on est dans une cabine avant le premier virage de Paddock Bend, et on voit vraiment la descente après Paddock Bend vers le virage de Druitt. Et de ma cabine l'an dernier, je me rendais compte, donc c'était les GT3, je me rendais compte que la trajectoire qu'il prenait n'était pas du tout la trajectoire académique qu'on imagine sur une grande épingle arrondie comme ça. Et je les voyais aller très en pointe en fait, mais ce qui est finalement la trajectoire GT3, c'est-à-dire qu'on utilise l'ABS au maximum, on va aux pointes, on arrête presque la voiture, on la fait tourner et puis on réaccélère. Et je me souviens d'avoir essayé, je m'étais dit tiens, sur le sim racing, j'avais essayé un peu ma trajectoire normale, trajectoire académique, et puis avoir essayé juste après la trajectoire en pointe, et je m'étais rendu compte, je crois que c'était 3 ou 4 dixièmes directement qui étaient gagnés. Donc, et ça par exemple, effectivement le sim racing en tant qu'outil pour les pilotes pro, forcément ça aide énormément, et avec évidemment l'évolution du chrono, que ce soit peu importe la plateforme, mais on peut voir si on est en avance, en retard par rapport à un chrono, si on était plus vite, moins vite, ça permet déjà d'apprendre pas mal de choses dans les trajectoires, et donc oui, de gagner du temps dans la préparation, ça c'est sûr. Tous les pilotes qui ont préparé un circuit sur sim racing, ils le disent, on va gagner 5, 6, 7 tours de vrais temps de roulage, bah, 5, 6, 7 tours, si on prend Le Mans, ça représente 30 minutes. C'est énorme, en fait, durant les séances d'essai libre. Donc, effectivement, le fait d'avoir gagné ces tours-là et directement d'être dans le coup, d'être déjà dans le rythme, de savoir déjà où on va. Après, il y a quelques... Il faut un peu peaufiner. Il y a parfois, il y a un vibreur qu'on peut prendre, parfois pas. Parfois, il y en a un qui fait un drôle d'effet. Parfois, il y a une bosse à un endroit qui n'a pas exactement la même. Mais c'est vraiment un truc qui est très, très intéressant, en tout cas.
Et moi, j'ai eu la chance d'aller à la FFSA Academy. Et j'ai pu essayer le simulateur de F4 là-bas. Et effectivement, enfin, pendant tout le week-end du Mans, j'étais avec l'ingénieur qui s'occupe du simulateur. Et donc, on a pu échanger beaucoup. Et donc, effectivement, ils essayent de se rapprocher aussi du réel et avoir des acquis de données pour pouvoir changer un petit peu le modèle physique, pour pouvoir se rapprocher au plus. Parce que à la fin, c'est une préparation pour la F4, pour les jeunes. Et donc, quand on sait que de la F4, il y a eu Paulou Chatin ici, qui a...
Ah bah, ils sont presque tous passés par la F4, des Jules Gounon, des Kevin Hess.
Bah oui, voilà. Tout ça.
Oui, c'est sûr. Après, il n'y a pas que... Enfin, il y a la FFS Academy, mais je pense iRacing travaille, on le sait, de manière très rapprochée avec les constructeurs. Là, ils ont, notamment avec la FIA, déclaré que leur Formule 4, justement, puisqu'on parle de Formule 4, était proche de celle de la FIA aussi et devenait un bon outil de préparation. Ça, je suis convaincu aussi qu'il y a vraiment... On se rapproche quelque part du comportement des voitures de plus en plus.
Et en plus, iRacing, ils ont les moyens pour pouvoir développer beaucoup plus de choses parce qu'avec l'abonnement, en fait, forcément, ça leur permet de mettre des moyens, des ressources.
Ils ont un business model qui est super bien construit. Alors certains vont dire, et c'est vrai que ça coûte pas mal d'argent. Après, tout est relatif. Hein, si vous comparez avec ne fût-ce que des séances de karting de compétition loisir ou de loisir, ou je ne parle même pas d'une journée complète dans un karting de compétition, finalement, c'est pas si cher.
Donc, tout est relatif, en fait.
Oui, les pneus, l'essence, exactement.
Les moteurs.
Donc tout est relatif, évidemment. Mais oui, effectivement, ils ont les moyens iRacing et ils développent. Je pense que c'est d'ailleurs le point fort pour moi d'iRacing. Enfin, ils en ont deux. Ils ont cette variété dans le nombre des voitures. Et le type de voiture présente, on a des voitures de tourisme, on a des GT, on a des protos, on a des monoplaces, enfin, ça c'est vraiment top. Et puis bon, ils ont un modèle pour jouer en ligne qui est super facile, chacun se retrouve tout de suite à son niveau, il y a des courses tous les quarts d'heure si on veut, enfin voilà, ça c'est vraiment, vraiment très bien fait.
Ok, bah, je vais pas te déranger plus longtemps, je te remercie Thomas, on a finalement réussi à se toper, donc c'était pas avant les 24 heures, c'était après. Merci à toi.
Avec grand plaisir, et puis continuer surtout à vivre un peu le rêve, et c'est ça, c'est un débat qu'on a souvent eu avec Laurent Mercier aussi, c'est le rêve de se dire que le sim racing permet un peu de se mettre dans la peau du pilote, de ressentir un peu ce qu'un pilote peut ressentir. Et finalement, c'est une source de passion, c'est un moyen. Et moi, dans mon cas, clairement, bon, ça ne s'entend pas, personne ne le sait, mais je suis passionné de sport auto.
Non.
Et donc, effectivement, c'est un moyen de vivre ma passion aussi, et un moyen d'apprendre dans les commentaires, d'apprendre les circuits, d'apprendre comment se comportent les voitures, d'apprendre ce que c'est le ressenti, de savoir ce que c'est de faire une erreur, de rater un freinage. Voilà, on le fait en simulateur, ça peut être en vrai aussi. Donc c'est bien, je trouve qu'il y ait tous ces moyens-là pour vivre la passion. Et j'ai envie de dire, ce que j'espère surtout, c'est que le sim racing permet aussi de ramener, et c'est là l'essentiel, de ramener un public vers le vrai sport auto, et je crois que c'est le cas, nous on le voit en tout cas avec le jeu Assetto Corsa Competition, qui a clairement par exemple amené des gens à jouer et à suivre en tout cas le Fanatec GT, donc ça c'est vraiment top, et j'espère que ça continuera d'être le cas, donc à vous tous les simracers, n'hésitez pas d'abord à vivre votre passion, et puis venez la vivre avec nous de temps en temps, c'est sympa.
Merci à toi.
J'ai mis un peu plus de temps que d'habitude à préparer ce podcast, mais j'ai beaucoup aimé travailler sur ce format. Facile à enregistrer, le travail est surtout après l'événement, pour lier les interviews. Et je remercie d'ailleurs Blast, le sondier, qui m'a bien aidé dans les réglages lors du montage pour réduire les sons sans perdre les voix. J'ai enregistré une dizaine de personnes, mais je n'ai pas vu tous ceux que j'avais prévus. Faute de temps d'ailleurs. Les 24 heures, c'est beaucoup trop court. Je ne doute pas trouver de nouvelles occasions pour interviewer des acteurs du sim racing. Et si vous avez aimé, vous connaissez la formule, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, sur vos différents réseaux sociaux. Si vous n'avez pas aimé, parlez-en quand même. We'll be right back.